Mettez au top pour vos rendez-vous 1, félicitations. Donc là maintenant, vous vous rendez au rendez-vous numéro 2. Donc dans cette formation, qu'est-ce que vous allez apprendre? Qu'est-ce qu'on prépare et comment on le prépare, ce fameux rendez-vous 2? Qu'est-ce qu'on emmène à ce rendez-vous 2? Et pendant le rendez-vous 2, vous allez apprendre les 5 étapes qui vont vous permettre de reconnecter avec la personne, de vous asseoir avec lui comme il faut et de présenter votre plan de match orienté à l'avantage du client. Ensuite, ça va être de traiter les objections et enfin de vendre le prix et signer le contrat. J'ai une confidence à vous faire. La dernière chose à faire quand on est en rendez-vous, c'est de commencer par parler du prix. Pourquoi? D'après vous, pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui intéresse le propriétaire et la seule chose qu'il veut savoir, c'est combien. Alors si vous commencez avec le prix, toute la suite du rendez-vous, eh bien, il ne va même pas vous écouter. Donc c'est d'abord, vous vendez votre plan de match, vos services, vous validez que la personne elle va travailler avec vous et enfin, vous parlez du prix. Donc le prix, c'est toujours à la fin. Ça y est, c'est le jour J, le rendez-vous 2, vous le vouliez, vous avez travaillé fort pour, et puis ça y est, vous y êtes. Donc là maintenant, il va falloir maîtriser les 5 étapes de je sonne à la porte jusqu'à ce que je reparte avec le contrat signé. Donc 5 étapes. Il va falloir reprendre le contrôle du rendez-vous, donc se représenter, se réasseoir et ensuite exposer les étapes du rendez-vous pour rassurer le client. Il va falloir reformuler les éléments de la découverte, il va falloir présenter votre plan d'action, il va falloir valider que et vous et le client, vous avez envie de travailler ensemble et enfin, vous allez pouvoir vendre votre prix, traiter les objections et signer le contrat. Et puis après, ça sera le temps de rentrer à l'agence et de commencer à mettre en place votre plan d'action que vous avez promis à votre client. Et c'est parti, on a un rendez-vous 2 et ce qu'il y a, c'est qu'il faut venir vraiment préparer. Donc, il y a principalement deux choses qu'on va préparer en plus de tous les outils dont on a besoin habituellement pour nos rendez-vous. Mais c'est deux choses. Une analyse comparative de marché détaillée et très visuelle, je vais vous expliquer comment on fait, et surtout un plan d'action, donc notre offre de service que vous allez préparer, mais vous allez voir dans une des prochaines vidéos sur la présentation du rendez-vous 2. Comment on package cet ensemble. Donc, premier point, l'analyse comparative détaillée, sélectionner vraiment soigneusement les comparables, les propriétés comparables et effectuer les ajustements vraiment comme il faut sur les trois catégories. Donc, les propriétés vendues, les propriétés à vendre, donc sur la compétition et aussi les expirées, donc les invendus. D'accord? Sur son plan d'action, donc très visuel, je vous expliquais dans une minute pourquoi. Entraînez-vous avec vos collègues, dans des jeux de rôle, à la présenter et surtout avec les avantages clients. Je me répète, ce qu'il y a, on ne s'entraîne pas avec les clients, on s'entraîne avec ses collègues. Donc, il faut venir préparer. Visuel, pourquoi visuel? C'est bien simple, c'est que il y a 10%, 10% de l'information seulement qui est retenue par les clients si on fait juste parler. Si on raconte une histoire, les gens retiennent que 10% d'informations ou n'en comprennent que 10%. Donc on a un taux énorme d'objections possibles. Alors que si on vient y rajouter un visuel, on augmente à 30% le niveau de compréhension ou de rétention d'informations. Donc on a beaucoup moins d'objections. Et puis, si on rend en plus le rendez-vous très interactif avec le client, là on est à plus que 50%. Donc en bout de ligne, on a vraiment peu ou pas d'objections parce que le client a vraiment bien compris et retenu les informations. Donc c'est parti, étape simple, ding dong, on recule d'un pas, ça vous en souvenez, la porte s'ouvre, vous serrez la main, vous êtes souriant, vous demandez des nouvelles de votre client, comment il va depuis hier, depuis avant-hier. Et là, vous lui demandez si on retourne directement à la table de la cuisine ou à la table de la salle à manger. Finalement, là où vous étiez la dernière fois, généralement, ça va se passer comme ça. Là, pour reprendre le contrôle du rendez-vous et puis rassurer le client, vous allez lui expliquer comment ça va se passer. Ça y est, on est à la table de la cuisine et là, il va falloir être bon. Je vous explique comment ça va se passer. Tout d'abord, ce qu'il faut, c'est expliquer le déroulé du rendez-vous au client pour le rassurer et pour lui donner le chemin qui va être le nôtre pendant le temps du rendez-vous. Comment on commence? C'est quoi le warm-up pour démarrer ce rendez-vous? C'est tout simple. Monsieur le client, comme je vous l'ai promis, j'ai préparé une analyse comparative de marché complète et un plan d'action pour vous. Et ce que je vous propose, c'est que d'abord, on revienne d'abord sur les éléments de votre projet. Ensuite, je vous présente mon plan d'action. Et puis pour finir, je vous détaillerai votre analyse comparative de marché. Monsieur le client, est-ce que ça vous convient comme ça? Donc, dans le script que je viens de vous dérouler, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Bah, tout d'abord, je lui ai dit que j'ai tenu mes engagements du premier rendez-vous, donc à savoir d'avoir préparé une analyse comparative de marché complète et un plan d'action. Et ensuite, les étapes du rendez-vous. Alors, les étapes du rendez-vous, c'est quoi? C'est d'abord de reformuler les éléments de la découverte qui permet de démontrer au client qu'on l'a bien compris, qu'on a bien écouté, qu'on a bien pris nos notes, et que ensuite on va présenter notre plan d'action, notre offre de service finalement. Et que c'est uniquement à la fin qu'on présentera l'analyse comparative de marché. Donc dans cet ordre-là, pourquoi c'est important de le faire? C'est parce que le client, si vous, en validant bien à la fin que ça lui convient, viendra pas vous demander tout de suite, bah alors c'est combien? Ou alors, juste après avoir reformulé la découverte, il viendra pas vous dire, alors c'est combien? À aucun moment, il y a peu de chances qu'il vienne vous dire, alors c'est combien, si on le prévient à l'avance comment les choses vont se dérouler. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment présenter vos services. Donc, en 5 étapes assez simples. D'abord, ça va être de sortir son GPS, son guide de présentation de service. Au moins, avec un GPS, vous ne serez jamais perdu pendant vos rendez-vous. Il va falloir d'abord ensuite reformuler la découverte, expliquer chaque point de service orienté à l'avantage du client, valider chaque point de service que le client a compris et qu'il y trouve de l'intérêt. Et au final, c'est de valider l'ensemble de la présentation. Donc maintenant, je vais passer au travers de chacun des points que je viens de mentionner. Pour que votre plan d'action n'arrive pas un peu comme une brique sur la table, il va falloir lui donner du sens au vendeur, que vous allez sortir ce document, ou papier, ou numérique. Et une façon assez simple de le faire, c'est de l'expliquer au propriétaire. Monsieur le propriétaire, afin que je m'assure que je passe au travers de tous les points qui sont importants pour qu'on puisse aller chercher le meilleur acheteur pour votre maison et que je m'assure que vous compreniez l'importance de chacun de ces points, j'ai un visuel qui permet d'avoir un fil directeur par rapport à toute cette présentation. Donc une fois que vous avez donné du sens au propriétaire, que vous sortez justement votre plan d'action, vous allez devoir d'abord reformuler les éléments de la découverte. Alors les éléments de la découverte, vous les avez à l'écran. Ça va être quoi? Ça va être quand est-ce qu'il veut déménager? Pourquoi il veut déménager? À quel prix il a mis sa maison? Les éléments majeurs. Mais vraiment rapide, 5-6 points, c'est vraiment pour démarrer le rendez-vous. C'est très très simple. Donc une fois que vous avez reformulé les éléments de cette découverte, il va falloir expliquer vos services point par point orientés à l'avantage du client. Alors comment on fait? Déjà, comment on fait? C'est de donner du rythme à votre présentation. Il faut que ce soit vivant et que vous fassiez participer le client. Alors, dans les présentations que je fais, vous allez avoir tout à l'heure une présentation d'une mise en situation par rapport à mon plan d'action que j'utilise pour mon travail. Vous allez pouvoir voir moi comment je fais. Puis après, vous pourrez vous en inspirer, sachant que deux agents immobiliers dans une même agence avec le même plan d'action pourront avoir des présentations qui sont quand même différentes, parce qu'il faut que ce soit vivant, il faut que ce soit personnalisé. Alors comment ça fonctionne? Les choses sont divisées, vous voyez à l'écran, les pages sont divisées en 3 points. En haut à gauche, qu'est-ce qu'on fait? Et à droite, l'avantage fort pour le client. Okay? Et au milieu, vous avez bah, quelque part des éléments clés, des mots-clés pour les explications. Donc, on articule les choses de la façon suivante, de client, qu'est-ce que je vais faire? Donc, par exemple, première page de mon plan d'action, c'est une analyse comparative de marché. Donc, comment on fait ça? Bah, analyse comparative de marché, je vais faire une analyse comparative de marché, ou j'ai fait une analyse comparative de marché, afin de, donc ça c'est un mot de transition, obtenir le meilleur prix possible et dans les meilleurs délais. Ça, c'est l'objectif fort pour le client. Le meilleur prix dans les meilleurs délais, ça lui parle. La CM, il s'en fiche un peu. L'objectif, l'avantage pour lui, ça c'est important pour lui. Donc après, on revient sur la partie centrale du document, telle que vous voyez à l'écran, où on réexplique, où on explique en fonction des pages. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour ça? Donc, une analyse comparative de marché, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, mais on prend des éléments de propriété très comparables, autant en termes de caractéristiques que dans le temps, sur des propriétés à vendre, des vendues, et puis des expirées, en expliquant bien que les à vendre, c'est la compétition, les expirées, bah, les acheteurs, ils n'en veulent pas à ce prix-là, et que les vendues, bah, ça indique à quel prix les acheteurs sont prêts à payer. Et puis, on élabore sa présentation, on élabore son explication et on termine cette page simplement avec une question qui reprend l'objectif fort qui est écrit à droite. sous forme d'une question fermée. Une question fermée, la réponse c'est oui ou c'est non. D'accord? Donc, monsieur le propriétaire, juste pour être certain, vendre au meilleur prix possible et dans les bons délais qu'il faut pour que vous soyez là où vous voulez aller, est-ce que c'est vraiment important pour vous? Et là, le client, faut qu'il dise oui. Alors, il y a plusieurs pages qu'on va dérouler comme ça, autant de pages que vous avez d'offres spécifiques, exclusives, que vous vous proposez et que vous voulez offrir à vos clients. Donc, chaque page, il va falloir bien identifier qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi l'avantage fort et trouver les différents éléments d'explication. Et que chaque fin de thème, chaque fin de page, faut valider avec le client par un oui. D'accord? Faut que ça soit vivant. Et puis, faites-le participer, interagissez avec lui. Donc, vous verrez tout à l'heure dans la vidéo comment moi je m'y prends. Et avec un tout petit peu d'entraînement, franchement, on y arrive très très bien et rapidement. Une fois que vous avez terminé l'ensemble de votre présentation de service, il est extrêmement important de valider l'ensemble des points avant même de parler du prix et surtout avant de parler du prix. Bah, comment on fait ça? Bah, c'est assez simple. C'est moi, je regarde le propriétaire droit dans les yeux et je lui demande, dites-moi, monsieur le propriétaire, est-ce que vous pensez que mon plan de match est suffisamment complet pour que vous puissiez atteindre votre objectif d'être dans le délai de X mois à tel endroit? S'il me répond oui, ok, très bien. Et puis, après, on passe à la suite. C'est parti pour présenter ses services. Et donc, moi, ce que je vous suggère maintenant, c'est d'employer uniquement le terme de plan d'action plutôt que de présentation de service ou offre de service. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est de l'action. Alors, on a fait notre warm-up, on a fait notre introduction, on a bien expliqué aux clients les différentes étapes du rendez-vous. Donc, la première étape du rendez-vous, donc on n'oublie pas, c'est de reformuler les éléments de la découverte au travers des différents points que vous pouvez voir à l'écran. 4-5 points rapides, c'est vraiment pour mettre le système en route. Deuxième étape, justement, c'est la présentation du plan d'action. Alors, la présentation du plan d'action, on s'entend, c'est un visuel très design qui donne un effet waouh aux gens, clairement, qu'ils soient sur un format papier ou sur un format numérique, comme sur des iPads par exemple. Comment ça fonctionne cette affaire-là? Déjà que la première chose à faire, c'est de donner du sens au propriétaire que vous sortiez justement votre plan d'action, de donner du sens pour que lui y accorde de la valeur. Alors comment on peut formuler ça? C'est assez simple. Monsieur le propriétaire, donc pour être certain que je passe au travers de chacun des points extrêmement importants pour aller chercher le meilleur acheteur pour votre propriété et que je m'assure que vous ayez tous les éléments en main, j'ai un visuel qui va nous permettre de passer au travers de tout ça. Le voici. Donc en fait, ce qui vous explique, bah, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voyez? Donc, vous avez présenté votre offre de service point par point. Vous avez bien validé chaque point de service, reformulé l'avantage fort pour le client en une question fermée pour faire dire oui au client. Vous avez déroulé l'ensemble et vous avez validé l'ensemble de l'offre de service sous la forme de la question pour le client. Est-ce que vous pensez que mon plan de match est suffisamment complet pour que vous puissiez atteindre vos objectifs? La cliente vous dit oui, effectivement, c'est très intéressant. Et là, les trucs de vente, comment on emmène les choses, comment on emmène la suite? La suite, c'est simple, c'est simplement de lui dire très bien, quand est-ce qu'on commence la prochaine visite libre? Et là, la réaction, là, elle est souvent un peu choquée du client, là, et puis il faut créer l'objection. Et là, il va vous dire, bah, ça dépend du prix. D'accord? Donc, j'ai une question intermédiaire, mais super importante, la question de principe, la validation de principe global sur les services, c'est que si on tombe d'accord sur le prix, est-ce qu'on travaille ensemble? Et ce n'est qu'à partir du moment où le client a dit oui à ça que vous présentez le prix. Parce que si vous dites non à ce moment-là, c'est que vous avez des objections à traiter concernant les services. Le client vous dit oui, on travaille ensemble si le prix est correct pour moi. Là, ensuite, vous présentez votre analyse comparative de marché, mais pas avant. Parce que gardez bien en tête que si vous présentez votre analyse comparative de marché sans avoir validé ça, ou que vous présentez votre analyse de marché en début de rendez-vous, Une fois que vous avez donné le prix, vous sortez de la maison. Le client ne fait pas affaire avec vous. Il baisse son prix sur le site internet avec lequel il était déjà. Il fait la vente et vous, vous avez travaillé pour rien. Est-ce que vous voulez être récompensé pour votre travail? Je suis sûr que oui. Quand vous êtes en train de valider l'ensemble de votre offre de service en lui demandant au client simplement, est-ce que vous pensez que mon plan de match est suffisamment complet pour que vous puissiez atteindre vos objectifs? Et donc, il y a deux choix possibles. Oui, il répond oui, et puis tout va très bien. Mais souvent, en fait, et soyez pas surpris, sa réponse, ça va être, ouais, mais ça dépend du prix. C'est quoi le prix? Parce que c'est ça qui l'intéresse. Et là, il est vraiment important d'intercaler encore une autre question avant de passer à la suite. Et cette question, c'est, monsieur le propriétaire, si on tombe d'accord ensemble sur le prix, est-ce qu'on travaille ensemble? Comme je vous l'ai dit, il faut vraiment valider le fait qu'on travaille avec les gens avant la suite. Parce que s'ils ne veulent pas du tout travailler avec vous et que vous traitez bien les objections qu'ils ne veulent quand même pas travailler avec vous, eh ben vous ne leur présenterez pas le prix. Parce que l'analyse comparative de marché, c'est votre propriété. Est-ce qu'on est clair avec ça? Allez, maintenant, on passe à la suite, traitement des objections. Parti pour le traitement des objections, mais avant de traiter les objections, il faut leur définir c'est quoi une objection. Mais quand il y a deux personnes qui communiquent, il y a un émetteur et puis un récepteur, donc l'émetteur, on va dire que c'est le courtier, et puis le récepteur, on va dire que c'est le client, et il y a cet échange, cette communication, cette discussion, et puis à un moment, il y a un truc qui coince, il y a une rupture dans la communication, il y a une objection. Alors, il y a plein de façons de formuler des objections, mais globalement, ça se formule sous la forme d'un non. Un non. Et vous savez quoi la beauté de la chose? C'est que la vente véritable commence par un non. Pourquoi? Parce que un non manifeste un signe d'intérêt par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Parce que sinon, la personne vous dirait non, ça ne m'intéresse vraiment pas, sors de chez moi. Je crois que c'est aussi simple que ça. Alors, il faut essayer de comprendre, de rembobiner pourquoi il y a les objections. Alors, il y a globalement trois sources principales des objections. La première, c'est le manque de confiance. Ils ne vous croient pas. C'est aussi simple que ça. Ils n'ont pas confiance en ce que vous êtes en train de dire. La deuxième possibilité, c'est l'incompréhension. Il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas et ça fait qu'il y a une divergence d'opinion entre la vôtre et la leur, mais qui n'est pas toujours définitive. Parce que ça vous est déjà arrivé de dire non, ça m'est déjà arrivé de dire non, et ça m'est déjà arrivé de changer d'avis, et puis vous aussi. Donc vous voyez que même si à un moment donné ça coince, et ben on a quand même le droit de changer d'avis. Et enfin, c'est l'a priori. Refus de principe motivé par des préjugés. Alors ça, c'est souvent, on m'a dit que. On m'a dit que fallait pas signer d'exclusivité, on m'a dit que blablabla. Il y a plein de choses avec les on m'a dit que. D'accord? Alors, on va pouvoir s'entraîner à les traiter, ces objections, mais on peut aussi arriver à mieux les identifier, à mieux les anticiper. Je vous propose qu'on commence par celle du manque de confiance, celle où les gens ne vous croient pas. Donc, pourquoi il y a cette source d'objection? Ben souvent, il suffit qu'on remonte pendant le rendez-vous 1, et puis je dis à quel point c'est important le rendez-vous 1, ben, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un certain, peut-être un manque d'empathie ressenti par la personne. La personne n'arrive pas à se dire. Il me comprend, ou il n'arrive pas à se dire, lui, il se met à ma place. Voyez? Souvent, c'est lié à une découverte soit incomplète, soit mal faite dans son rendez-vous 1, et surtout sur les moteurs de motivation. Et ça se joue souvent au niveau du jeu des questions, pas assez de questions posées, surtout pas assez de questions ouvertes. On s'en souvient, les questions ouvertes permettent aux clients, aux prospects, de s'exprimer. Donc la personne, elle n'a pas eu la possibilité de s'exprimer comme il le faudrait pendant ce premier rendez-vous. Et puis vraiment, qu'est-ce qui motive le client? Qu'est-ce qui va motiver le client de passer à l'action? Qu'est-ce qui motive le client dans ses motivations d'achat? C'est quoi sa corde sensible au client par rapport à sa façon de fonctionner? Eh bien là, par exemple, ça n'aurait pas été assez approfondi également. Alors, comment est-ce qu'on peut éviter ça? Ben c'est assez simple. C'est pendant votre rendez-vous 1, eh ben, c'est de poser davantage de questions ouvertes notamment, et puis de reformuler. Donc, reformuler davantage en prenant les éléments qui viennent d'être dits par le client et de reformuler ça sous une forme de question pour pouvoir alimenter la conversation. Et on s'en souvient, poser des questions, c'est s'intéresser aux gens, et prendre des notes, c'est les considérer. Et ça, c'est vraiment des éléments très très important, donc prenez davantage de notes. Maintenant, deuxième élément, l'incompréhension. Donc c'est la divergence non définitive sur une situation où on n'est pas d'accord. Et pourquoi il y a ça? Eh bien, cet élément-là, souvent, c'est que le guide de présentation visuel, soit papier, soit numérique, ben, il n'a pas été utilisé ou pas assez bien utilisé. D'accord? Ou que votre présentation de plan d'action, de service, ça n'a pas été assez précis. Ça, peut-être un survol trop rapide. Ou alors, pas rentrer assez dans le détail des éléments qui sont importants pour le client. Et puis, il y a une chose, souvent on est très très clair, une présentation de service elle est très très claire, mais souvent elle est très claire que pour nous. D'accord? Les informations qui auraient été transmises au client, eh bien, elles n'ont pas été assez claires pour le client. Vous pensez que vous avez été super bon, mais le client, lui, il a rien compris. Donc ça, c'est un autre élément. Et que, comme cette présentation se veut interactive, peut-être que vos réponses aussi n'ont pas été assez connectées aux vraies préoccupations du client, pas assez à l'avantage du client. On est peut-être trop resté sur le vernis, donc de qu'est-ce qu'on va faire, mais pas assez sur c'est quoi l'avantage fort pour le client. Et est-ce qu'on n'aurait pas peut-être oublié aussi, ou fait de façon imparfaite, de valider chaque avantage fort en le reformulant sous une question fermée pour faire dire oui au client, ça j'y vois du sens, oui ça m'intéresse. Alors, ces éléments-là, comment est-ce qu'on peut faire pour les éviter? Déjà, c'est d'utiliser le visuel de façon systématique. C'est la garantie pour vous que votre client va bien comprendre les choses, donc pour vous de limiter les objections. Autre point, soyez précis quand vous expliquez les choses. Précis, et c'est des éléments importants. Les clients sont en train de prendre la décision de vous confier un projet de vie parmi les plus importants. Donc, je pense que ça vaut le coup d'être précis avec ses clients. Validez, n'oubliez pas de valider avec le client qu'il a bien compris les avantages pour lui que de tel et tel élément. Et puis, surtout, rendez les choses vivantes, interaction, faites participer le client avec vous. Posez-lui des questions, faites-lui vivre les choses. Alors maintenant, pour vous, là, je vais traiter quelques objections, je dirais les plus courantes qu'on retrouve, je dirais, de façon assez classique, en vous donnant quelques éléments clés. Je ne vais pas vous traiter toute l'objection, parce que faire un monologue sur une objection, c'est quand même assez compliqué, mais vous donner des pistes de questions pour relancer la conversation et puis creuser, des issues à certaines objections ou des solutions. Donc, vous allez pouvoir trouver différents de ces éléments au travers des 8 à venir. Prenons l'exemple d'un propriétaire qui voudrait vous dire ras-le-bol des agences, tous pareils, vous promettez la lune, et puis une fois que le mandat est signé, on ne vous voit plus. On l'a déjà tous entendu. Bah, par exemple, pour désamorcer, ça serait bah, je comprends effectivement votre déception. C'est assez simple. Et puis, après, pour creuser, eh ben, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors après, il va pouvoir vous sortir plein d'éléments. Vous connaissez tous les griefs des différents prospects. Et sur les promesses non tenues ou les déceptions, souvent, les solutions qui fonctionnent, c'est les garanties d'action, donc ce que vous promettez, mais que vos promesses, vous les traitiez en engagement écrit, que vous fassiez une liste complète de ce que vous vous engagez à faire et que ça soit une annexe complète à votre mandat. Et que si un élément de vos promesses, de vos engagements n'est pas tenu, que le contrat devienne résiliable en tout temps. Et ça, c'est assez puissant de le faire. Donc d'un côté, vous avez la garantie d'action signée qui permet vraiment de rassurer le client d'un point de vue très factuel. Et puis vous avez d'autres clients qui vont simplement, eh ben, ils n'ont pas envie d'être les premiers. Ils n'ont pas envie d'être les premiers à signer avec vous. Eh ben, ce qu'il y a, c'est que c'est de leur démontrer que d'autres clients avant eux ont été satisfaits de vos services et de vos engagements. Eh ben, la chose à faire, c'est de demander à chaque client avec qui vous avez fait affaire et avec qui vous faites affaire aujourd'hui, ben, c'est des témoignages. Et quand un client viendra vous demander... Ben finalement, qu'est-ce qui me prouve que tu fais le travail correctement ou qu'est-ce qui me prouve que les clients sont satisfaits? Ben vous pourrez sortir les témoignages clients pour rassurer la personne et puis conclure votre contrat. Il se peut aussi qu'un client vous dise, par exemple, je te signe un mandat quand tu m'auras trouvé un acheteur. Donc ça, typiquement, là, il dit, ouais, je veux pas signer de mandat. Ou alors, Il y a un autre axe et il vous ouvre la porte avec un acheteur. Tout dépend comment on perçoit les choses. Moi, je vous propose de rester sur le côté, tu auras un mandat uniquement quand tu auras un acheteur et puis pas traiter le reste. Mais là, ce qu'il y a, c'est que ça ne se traite pas comme une objection, mais c'est simplement d'expliquer au client c'est quoi la vérité, comment ça se fonctionne vraiment dans la réalité du marché, comment ça se passe la mise en marché d'une propriété, c'est quoi les sources de contact et c'est quoi les pourcentages de succès. Là, vous avez le visuel à l'écran des sources de contact hein, sur la colonne de droite. Hein, au milieu, les pourcentages de succès de transactions. Donc là, le client, ce qu'il est en train de vous demander, c'est d'aller chercher dans votre base de contact hein, pour laquelle vous avez tant travaillé les 40% de succès au niveau de vos acheteurs. Maintenant, vous pouvez l'emmener sur un autre axe, simplement en lui demandant, Monsieur le propriétaire, si vous étiez un client vendeur de l'agence avec qui on a un engagement, donc toutes les personnes avec qui on travaille aujourd'hui, est-ce que vous aimeriez apprendre que ma plus grosse source d'apport de clients acheteurs auprès de mes vendeurs, j'en ai fait bénéficier quelqu'un avec qui j'avais aucun partenariat? Est-ce que vous aimeriez l'apprendre? Il va vous répondre non. Donc, vous comprendrez que je ne le ferai pas. Et puis, soyez d'aplomb. Non, je t'amènerai pas d'acheteur. Et puis, il n'y a jamais personne qui va vous en vouloir, hein. Parce que si vous avez une entente avec un autre vendeur, là, je peux vous dire que s'il apprend que vous avez été vendre une autre propriété plutôt que la sienne, ça va être chaud pour vous, quoi. Par contre, maintenant, vous pouvez expliquer au travers du visuel l'ensemble des différentes sources. En disant, voilà, monsieur le propriétaire, les sources de clients viennent soit des visites libres, soit des pancartes, soit des publicités, soit d'Internet, ou effectivement des sources de clients qu'on a dans notre base de données. Est-ce que vous aimeriez pouvoir profiter de cette manne de contacts qu'on a, qui sont des acheteurs motivés et qualifiés financièrement, pour acheter une propriété comme la vôtre? Oui, il va dire oui. Et puis s'il dit oui, très bien, parce que je vous propose, c'est qu'on puisse mettre tout ça en place dès maintenant. Quand est-ce qu'on commence la première visite libre? Puis boum, puis vous l'emmenez. Alors, une autre objection aussi qui peut arriver, qui n'est pas très courante, mais elle est embêtante. Le client qui vous dit, je veux pas de photos, je veux pas que mes voisins sachent que je vends. Bon, déjà, bonne nouvelle, là, la seule chose qu'il veut pas, c'est des photos, mais en attendant, il est d'accord de signer avec vous. Donc, on a déjà fait les trois quarts du chemin. Et bien là, je comprends que vous souhaitiez une certaine discrétion par rapport aux voisins. Toutefois, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous voulez cette discrétion par rapport aux voisins? Pour X et X raisons, peu importe. Mais là, où est-ce qu'il faut l'emmener le client là? C'est lui de faire dire, est-ce que vous savez comment un acheteur sélectionne une maison? Et moi, je vous le demande, est-ce que vous savez comment un acheteur sélectionne une maison? Eh ben, un acheteur qui regarde essentiellement par exemple sur une annonce, 90% des recherches se passent sur Internet, eh ben, passe près de 60% de son temps sur les photos et finalement peu sur le descriptif. Alors, monsieur le client, qu'est-ce que vous pensez que l'acheteur va faire s'il n'y a pas de photos? Vous n'avez pas la réponse, je vais vous le dire, il ne va pas s'y intéresser. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Et lui va dire non. Très bien. Donc vous comprenez l'importance d'avoir des photos? Ouais, ok. Et là, vous avez déjà débloqué la situation. Correct. Bon, alors là, on vient de sortir de la série des je veux pas de photos. On a aussi dans la série des je ne veux pas le pas de pancarte à vendre. Je ne veux pas de pancarte à vendre. Et bien, là, ce qu'il y a, c'est que souvent les raisons sont comparables. Hein. C'est le parti pris de discrétion. Et là, c'est de faire prendre conscience encore aux clients des éléments fort de communication dont il se sépare en n'utilisant pas cet axe de communication. Et là, simplement, en l'amenant encore avec des questions à voir les choses sous un autre angle. De toute façon, c'est ça le jeu des objections, hein. Les objections, c'est que vous voyez les choses d'une façon et que le client voit les choses de l'autre façon. Et le truc, c'est de l'emmener pendant quelques instants à voir dans votre direction. Après, il y a deux choix. Soit il voit dans la vôtre, soit il reste dans la sienne. Okay? S'il ne voit vraiment pas dans votre direction, après, vous avez le choix de ne pas vouloir travailler avec lui. Hein. Donc, pour la pancarte à vendre que le vendeur n'en veut pas, c'est de l'emmener. Simplement avec une question, est-ce que vous saviez que c'est près d'un acheteur sur deux qui connaît déjà quelqu'un dans le secteur où il va chercher? Je me suis rendu compte que presque une fois sur deux, un acheteur d'une maison connaissait déjà quelqu'un qui vivait dans le quartier. Donc, c'est d'aller, de miser sur le réseau de contact, un peu comme les réseaux sociaux, mais c'est dans la vraie vie, le réseau social du voisinage qui viendrait dire à un de ses amis, tiens, au fait, j'ai vu qu'il y avait une pancarte à vendre dans le quartier à côté de chez moi et tu m'as dit justement que tu venais chercher. D'accord? Excellent. Donc, c'est un axe de communication super fort, le jeu du réseau de contact. Une autre façon d'amener les choses. Est-ce que vous connaissez le critère numéro 1 de choix des acheteurs? L'emplacement. Et vous savez quoi? Quand un acheteur appelle sur une pancarte, c'est quasiment déjà 50% de la vente qui est faite parce qu'ils ont déjà acheté l'emplacement. Est-ce que vous voulez avoir des acheteurs qui ont déjà acheté la moitié de votre maison avant même de visiter? Oui, ok, très bien. Donc vous voyez aussi l'intérêt de la pancarte. Et que par rapport au visuel que vous aviez tout à l'heure sur les sources, eh ben, c'est 20% des acheteurs qui concluent une transaction sur une pancarte. Donc vous utilisez un de ces axes ou les trois pour amener le client à accepter de vouloir une pancarte. Une autre objection. J'ai déjà un mandat avec l'agence de la copine de ma femme ou le fameux j'ai un ami dans l'immobilier. J'ai un ami dans l'immobilier, on l'a tous entendu toute notre carrière. Et bien là, c'est simplement d'y aller. Ben, je comprends que c'est une situation courante là, mais toutefois, permettez-moi de vous demander, de vous poser une question. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est d'avoir votre maison vendue ou est-ce que c'est de faire une faveur à l'un de vos amis? Bizarrement, l'amitié va sauter en éclats. C'est d'avoir la maison vendue. Et là, vous ramenez les choses à vous et à votre plan de match. Est-ce que vous pensez que je peux être la bonne personne pour vendre votre maison? Est-ce que vous êtes capable de me voir à la face pendant un mois, 2 mois, 3 mois? Est-ce que vous pensez que j'ai le niveau de compétence? Oui. Est-ce que vous pensez que mon plan de match est complet et que vous puissiez atteindre votre objectif? Oui. Très bien. C'est une exclusivité. Puis au pire, puisque vous pensez que mon plan de match est vraiment efficace et que je peux aussi être la bonne personne pour vendre votre maison, on peut inclure votre ami et lui reverser une commission de référence. Bon, ça c'est au pire, hein. Si vous pouvez préserver vos honoraires sans les laisser aux autres, c'est quand même mieux. Alors, là, encore dans les classiques, de toute façon, là c'est le florilège des classiques, je vois pas ce que vous pourriez faire de plus pour moi, je peux me débrouiller seul. Alors là, moi, je vous renvoie tout de suite à ce qu'on avait vu précédemment. C'est que 70% des transactions, 70 à 80% selon les pays, sont réalisées par les agences immobilières et que c'est de 15 à 30% qui sont faites au privé, de particulier à particulier. Eh bien, présentez-lui ces chiffres, par exemple. Les chiffres des résultats, c'est quoi les faits? Et en y allant de façon courtoise et diplomatique, bah, je comprends tout à fait que vous pouvez vendre votre propriété par vous-même. Et vous savez quoi, moi je leur dis, je pense même que vous êtes la meilleure personne pour vendre votre maison parce que c'est vous qui la connaissez le mieux. Toutefois, est-ce que vous êtes la meilleure personne pour vendre votre propriété? Alors après, on peut l'emmener sur plein d'axes. Quand est-ce que remonte votre dernière vente? Bah, c'était il y a 20 ans. D'accord. Vous avez vendu combien de maisons dans votre vie? Ah, j'en ai vendu 5. D'accord. Moi, c'est le nombre que j'ai vendu la semaine dernière. Il y a plusieurs façons de l'amener, soit sous ces formes de parties de ping-pong assez diplomates, et que quelqu'un qui viendrait vous dire, je voudrais simplement, je vois pas ce que vous pourriez faire de plus pour moi, je peux me débrouiller seul, bah c'est que vous n'avez pas utilisé le visuel du plan d'action. Il y a une façon aussi, une alternative assez directe, et j'aime assez les choses directes, finalement, qu'on pourrait résumer en un point. Vous me dites, je vois pas ce que vous pourriez faire pour moi. Finalement, on pourrait dire aussi pourquoi est-ce que vous prendriez une agence, non? Hein, monsieur le propriétaire. Bah, la réponse est simple, monsieur le propriétaire. Ça dépend simplement de votre motivation. Si vous voulez juste être à vendre, effectivement, je ne peux rien faire de plus pour vous. Mais par contre, si vous avez envie d'aller chez le notaire dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, et puis d'aller dans la ville que vous souhaitez déménager, là, oui, effectivement, je peux être utile. Et là, vous ressortez les chiffres de vos pays. Sur les parts de marché, agence versus le marché de la vente au privé. Je veux mettre toutes les chances de mon côté. Je ne vois pas pourquoi je ne mettrais pas ma maison dans 8 agences. Elle est magnifique celle-là. C'est celle du propriétaire qui a rien compris, et qui a rien compris, ben c'est à cause de nous. Je vous explique. Je vais vous simplement vous donner l'explication de comment amener les choses au propriétaire pour qu'il puisse voir les choses différemment. Dites-moi, monsieur le propriétaire, imaginez quelques instants que vous êtes un acheteur. Mettez-vous dans les chaussures d'un acheteur avec la casquette d'un acheteur et que vous voyez la même maison à vendre dans toutes les agences, sur tous les sites internet. Qu'est-ce que vous dites, dites-moi? Dites-moi, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que pensent les acheteurs? Bah, il va se dire, il n'arrive pas à vendre. C'est pour ça qu'il a mis dans plein d'agences. Il y a certainement un problème. La maison, elle est sûrement très, très, très négociable. Dites-moi, même si la maison pouvait être éventuellement peut-être très, 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 très négociable, une maison dont personne ne veut, où il y a certainement un problème, est-ce que vous pensez que les gens vont s'y intéresser? Non. Est-ce que vous voulez générer la rareté? Oui, confiez-moi l'exclusivité. Signez-la. Quand on vient solliciter, prospecter des propriétaires qui sont déjà sur des sites de vente au privé, il y en a une qui vient de nous sortir de temps en temps là, qui dit le prix affiché sera plus élevé en agence. Alors, moi, celle-là, je l'aime beaucoup, en fait, parce que j'emmène toujours les gens à leur propre responsabilité. Et puis, je leur demande, dites-moi, c'est quoi qui est le plus important pour vous là? C'est le prix que va payer l'acheteur là, ou le prix qui va y avoir clair dans vos poches? Est-ce que ça a une importance quelconque pour vous, le prix que va payer un acheteur? Donc, le prix pour vous, les honoraires de l'agence, les frais de notaire, les frais de déménagement, les taxes, les travaux, etc. Est-ce qu'on allonge toute la liste ou est-ce qu'on se concentre sur le prix qu'il va y avoir dans vos poches? Parce que soyons honnêtes là, les gens là, ils n'en ont rien à faire de combien ça va coûter. Tout ce qu'ils veulent savoir, c'est combien ils ont dans leur poche. Et puis, si vous voulez clairement closer par rapport à ça là, et bien effectivement, si vous voulez pas que ce soit plus élevé en agence, là, vous la retirez et puis il n'y aura qu'un seul prix, celui qui est dans mon agence. Et vous pouvez les emmener aussi sur l'analogie de la rareté. L'analogie, je dirais, du diamant. Là, vous savez, le diamant et le pétrole, là, une rareté contrôlée. C'est contrôlé parce que le diamant et le pétrole, si c'était rare, ça se saurait, quoi. Et ce qui est rare est cher. Et c'est pour ça que je vous préconise, monsieur le vendeur, de générer de la rareté sur votre maison. De mettre en place une stratégie exclusive pour obtenir le meilleur prix pour vous, le prix qu'il en veut. C'est pas plus compliqué que ça. L'exclusivité permet de générer de la rareté et ce qui est rare, les gens sont prêts à payer le prix. C'est bien ce que vous faites, monsieur l'agent immobilier, là, mais là, il y a aussi une autre agence qui me fait 3%. Si vous vous alignez, moi, je signe avec vous. Ah, très bien, je vous remercie déjà de l'intérêt que vous portez à mon travail. Dites-moi, j'ai une question. Cette agence qui vous fait 3%, au départ, c'était quoi son barème d'honoraires? Je sais pas, je crois que c'était 5 ou 6%. Ah, d'accord. Dites-moi, ça lui a pris combien de temps pour passer de 5 à 3%? Ça lui a pris combien de temps pour passer de 6 à 3%? Je sais pas, j'ai juste demandé, il a dit oui. D'accord. Et dites-moi, j'ai une question. Combien de temps ça va lui prendre pour résister face à un acheteur là pour diminuer le prix de votre maison de 50% quand il y aura une offre? Est-ce que vous voulez quelqu'un qui soit là pour vous défendre, qui soit droit dans ses bottes et capable de dire non et de défendre vos intérêts? Ou est-ce que vous voulez celui qui brade tout en moins d'une minute? Ils ne veulent pas les bradeurs, ils veulent des gens qui sont capables de faire le boulot à leur place que eux-mêmes ne sont pas capables de faire. Donc vous comprendrez que moi je défendrai la valeur de mon travail avec autant de vigueur que je défendrai le prix de votre maison et vos intérêts. Donc si vous en voulez ce prix-là, mes honoraires, c'est X et c'est pas négociable. De la même façon que je ne chercherai pas à négocier votre maison. Une autre façon de l'approcher, de jouer les comparatifs pour, je dirais, si vous voulez quelque chose d'un petit peu moins rentre-dedans, parce que je suis peut-être un peu rentre-dedans, mais simplement de faire un comparatif et en lui demandant, bah, très bien, mais qu'est-ce qu'elle fait cette agence pour 3%? Et là, vous faites trois colonnes. Une colonne, c'est les actions qui sont menées. L'agence dont on parle à 3%, et puis vous. Et puis là, vous faites, en faisant la liste des actions, est-ce que lui fait ça? Bah non, ok, moi je le fais. Est-ce qu'il fait ça? Non, moi je le fais. Etc., etc., etc. En bout de ligne, dans la colonne de l'agence qui fait à, peu importe le pourcentage, 3%, il se rendra compte qu'il y a 75 ou 100% de services en moins, d'axes de communication en moins. Donc, c'est une façon aussi d'amener les choses. Une autre façon encore, dites-moi, monsieur le propriétaire, si on était tous les deux au même pourcentage, qui est-ce que vous prendriez? Et dites-moi, monsieur le propriétaire, à 3%, pourquoi est-ce que vous n'avez pas signé avec lui? Et là, vous allez avoir la vérité. C'est que ce n'est pas l'histoire du pourcentage, mais que la personne qui est venue ne lui a pas inspiré confiance, n'a pas envie de travailler avec lui, ça ne marche pas. Ce n'est pas une question de pourcentage. Si les gens obtiennent un montant cohérent, le meilleur prix possible marché dans leur poche, ce que ça coûte en plus, ils s'en contrefichent. Une question qu'on me pose souvent. Là, je n'ai pas été chercher dans le traitement d'objections diplomatiques, là. Est-ce que vous allez réduire vos honoraires? Ma réponse est non. Vous avez d'autres questions?